RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani. Il tient son micro directement dans la main, il ne le pose plus sur le pied, c'est François Colombani en direct sur RCC.
Anto, comment vas-tu ?
Et toi ?
Ah, moi, je vais très bien, je me sens beau, désiré, désirable, important. Et tu sais pourquoi ?
Pourquoi ?
Parce que bientôt, c'est les territoriales !
Il y a de l'ambiance en ce moment. Hein.
Ça y est, on me dit bonjour. Ouais, il y a de l'ambiance, c'est chaud. Donc profitez, si vous avez de l'électroménager en panne ou quoi que ce soit, c'est le moment. Hein, surtout, n'hésitez pas. Donc, chers auditeurs, bonjour, j'espère que tout va bien, après un week-end un peu dégueulasse. Aujourd'hui, je reçois le beau, le sympathique Mika Villain-Albert. Mika, comment ça va ?
Ça va très bien, et toi, François ?
Écoute, on essaye d'aller. Alors, comme à chaque fois, un petit peu dans l'émission, je vais un peu expliquer ce qui s'est passé un 3 mai. Donc, j'explique ce qui s'est passé d'important ce jour-là. Donc, en 1979, Thatcher a été élu Premier ministre en Angleterre. En 1469, naissance de Nicolas Machiavel. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Ah ouais, n'en déplaise à certains. C'est la journée internationale du rire, du soleil, des mères endeuillées et des prières pour les vocations. C'est la fête des Jacques et des Philippe, donc on leur souhaite une bonne fête. Donc, actu ouverture du procès de Nordal-Lelandais, l'assassin présumé de la petite Maïlis, pour le meurtre d'Arthur Noyer. Donc, ce type-là, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il meurt accidentellement. Donc, on a vraiment pas de bol. Tiens, toi, ça va te plaire, Anto, puisque un 1er mai, puisqu'on va aussi parler de 94, tu sais ce qui s'est passé ?
Excuse-moi, 1er mai ?
94.
Non. J'ai pas le casque, ouais, tu me disais ?
Un 1er mai 94, qu'est-ce qui s'est passé ?
Là, j'en ai aucune idée.
La mort d'Ayrton Senna.
Ah.
Enfin, ça fait 27 ans.
J'ai publié un truc, mais...
Eh ouais, ça fait 27 ans.
J'étais perturbé, là, par la technique.
Et d'ailleurs, est-ce que tu connais le point commun entre Ayrton Senna et Claude François ?
Non, attention.
Deux très bons conducteurs. Alors, le 1er mai, fête du travail...
C'est méchant.
Ouais, je sais. Là, tu m'as dit, hein, maintenant, je me lâche. On aurait aimé bosser, donc une pensée pour les commerces dits non essentiels, les bars, les restos, les boîtes, le monde de la culture, du sport amateur. Alors, à partir d'aujourd'hui, on est déconfiné pour la troisième fois. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça change ? Rien. Sauf pour les parents des collégiens et des lycéens. Ça y est, ils sont libérés. Hein, une semaine en retard après les autres. Alors, couvre-feu 19h, pas de terrasse, commerce non essentiel, bar, resto, salle de sport, lieu de culture fermé, toujours du télétravail, mais on peut maintenant se déplacer au-delà de 10 km. Le 19 mai, ce sera couvre-feu à 21h, il y aura des terrasses, les commerces non essentiels pourront ouvrir, les terrasses aussi, soumis à des jauges et au taux d'incidence. Donc voilà, hein, c'est le déconfinement est assez lent. Aujourd'hui, je reçois Mika Villain-Albert.
François, est-ce que tu peux passer par là dans le micro, s'il te plaît ?
Ah !
Voilà, ouais, c'est mieux.
Aujourd'hui, je reçois Mika Villain-Albert. C'est vrai, attends, je vais monter un petit peu mon retour, voilà. Qui a grandi pas très loin d'ici, à Montcal. Alors, première question, comme d'habitude aux invités. Tes premiers souvenirs calvais, quels sont-ils ?
Alors moi, les premiers souvenirs, vraiment, ce serait le port, hein, avec mon père qui est pêcheur, donc... à Calvi, et donc ce serait sur le port de Calvi, hein, les bateaux de pêche. Quoi, hein.
Donc les études, tu fais collège et à Calvi.
Oui.
Lycée de Balagne.
Alors, oui.
Quel type d'élève t'étais ?
Non, j'étais un élève moyen, hein, plutôt discret, on va dire. Hein, je me faisais pas trop remarquer. Hein, et en tout cas au collège, plutôt moyen bon, on va dire. Et puis après au lycée, un peu plus compliqué, mais j'ai quand même eu mon bac.
La découverte des filles.
Ouais, un peu, et bon, ouais, c'était autre chose, on va dire.
Alors, le bac, c'était quoi ?
Bac S.
Bac S. Ah, quand même.
Ouais, je fais un bac S. J'ai eu du mal à l'avoir, mais j'ai eu au rattrapage, mais je l'ai eu.
Sur un clé de Monsieur Mamouret.
Voilà, exactement, ouais. Exactement.
Donc ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Tu pars à Corté ?
Après, je pars à Corté, je savais pas quoi faire, et sur les conseils, on va dire, un peu familiales, je pars en études de droit. Je sais pas trop pourquoi je me retrouve là. J'ai aussi des potes qui font ça, donc du coup je dis allez, c'est la facilité, on me dit le droit ça mène à tout, curieux, j'y vais. Première année je l'ai du premier coup. Non, la première année, je l'ai pas du premier coup. Je la loupe, mais j'ai quelques matières à rattraper. Du coup, je continue. J'ai mon rattrapage. Je passe en seconde année. Seconde année, je l'ai du premier coup. Et après, licence de droit, difficulté, ça commençait, je voyais que c'était pas ça qui m'intéressait le plus, mais bon, je dis maintenant que je suis lancé, je passe la licence et j'ai quand même eu ma licence de droit, quoi. Mais j'ai, avec difficulté, quoi, hein, c'était pas mon kiff, on va dire.
Ouais. Alors, du coup, derrière, départ à Paris.
Alors, donc, du coup, après, je sais pas trop quoi faire, je sais que je veux pas travailler dans le droit au final. L'été, je travaille dans la restauration, je fais des petits jobs. Je me dis bon, tant qu'à faire, je vais aller à Paris voir un peu si, enfin, voir autre chose quoi. Et du coup, donc je pars à Paris, je rejoins mon frère qui est déjà là-bas, qui fait des études dans le cinéma, dans les cours Florent. On vit en coloc, je cherche du boulot et j'arrive à trouver. Bon, pour les Corses, quand on part à Paris, on va dire, on est toujours aidé par la diaspora et la facilité, eh ben, c'était de trouver des boulots. Alors à l'époque, hein, c'était facile, c'était dans les cercles de jeu. Hein, donc j'ai trouvé un boulot dans un cercle. J'ai travaillé dans un cercle de jeu.
Et de là, donc ça dure combien de temps ?
Je reste un hiver, hein. Je fais ma saison encore, je pars à Paris, on va dire en octobre, novembre, je trouve mon job, je rentre à travailler en décembre, mais je vois que la vie parisienne, c'est pas vraiment pour moi, quoi, la grisaille, la grande vie. Alors quand on est jeune, oui, on s'amuse, hein, on sort. Je gagnais assez bien ma vie, donc voilà, bon, tout ce que je gagnais, je le dépensais. Hein, voilà, hein, c'était en sortie, en soirée, copains, restaurant. Voilà. Mais je sais que je vais pas faire ma vie là-dedans, quoi. Hein, c'est quand même le milieu de la nuit, c'est bien un temps, mais c'est pas. Je sais que je vais pas faire ma vie là-dedans. Donc, j'ai déjà dans ma tête, il mûrit déjà l'idée de partir ailleurs, surtout à l'étranger. Je suis sur Internet, c'était un peu les débuts de Facebook, hein, c'était en 2007-2008. Je m'inscris sur Facebook et je retrouve des potes de lycée qui sont partis à l'étranger, notamment un qui est en Australie. Et du coup, là j'ai l'idée dans ma tête de partir, ça me fait rêver de voir les plages, l'Australie, le surf, le soleil, alors que moi je suis dans la grisaille parisienne, il fait froid, il neige, je travaille la nuit, donc et du coup je rêve de ça, parce que quand c'est l'hiver ici, ben c'est l'été là-bas, donc je rêve de partir là-bas et je nourris ce projet en fait.
Et donc du coup départ.
Du coup alors je rentre en Corse, après Paris je fais une saison, je pour mettre des sous de côté pour pouvoir partir, donc je travaille dans la restauration au Minel ou chez les Rico. Hein, François, Michou, Jean-Charles et Janie, qui étaient mes patrons donc à l'époque. Et ça me permet de mettre des sous de côté pour pouvoir partir. Et là, je pars en Australie.
T'es un point de chute ?
J'ai pas vraiment un point de chute, mais par contre, je m'organise pour partir avec des potes. Et d'ailleurs, un pote qui est déjà parti là-bas. Donc lui, il avait quand même un peu des références. C'était le début d'Internet, des voyages où tu pouvais réserver tout sur Internet, prendre un package, on va dire, avion, hôtel et tout ça. Donc on se renseigne sur Internet et on part. Donc je pars avec deux potes, un pote de Corté et un pote qui vit à Marseille mais qui a des attaches ici, qui est originaire de d'ici. Et on part tous les trois. On part tous les trois en Australie et c'était l'aventure.
Là. Et là, qu'est-ce que tu fais donc concrètement en Australie ?
Alors j'arrive en Australie, on galère un peu à trouver du boulot. On s'aperçoit que les Français, ils sont pas très très bien vus. On a une mauvaise réputation des fainéants et on parle mal anglais aussi, hein, à la base. Hein. Les Français, ils sont pas réputés pour être bilingues, on va dire. Et du coup, on galère un peu. Et heureusement, j'ai cette chance, je tombe sur, c'est fou, hein, sur des gens des Corses que je connaissais, avec qui j'ai travaillé au Wagram. Et par hasard, hein, par contre, c'était une histoire de fou à l'autre bout du monde. Je savais qu'ils étaient en Australie, en fait. Et mais je savais pas qu'ils étaient dans la même ville que moi, quoi. Moi, j'arrive à Sydney, à la grande ville.
Et le quotidien, énorme, c'est quoi? C'est un peu la galère?
Alors, le quotidien, c'est la galère. De recherche de boulot, un peu galère, tu vois. On va dans les restaurants, on pose des CV, des trucs, mais les mecs, ils nous rappellent pas.
Pour sortir, t'as un budget qui est serré. Pour sortir, c'est très cher, l'alcool, là-bas.
Mais alors, l'erreur qu'on a faite, à la base, c'est d'aller dans une grande ville, tu vois. Tu sors, la grande ville, c'est la grande ville, quoi. Tu vas à Paris, New York, Londres. Sydney, c'est la grande ville. On aurait dû aller dans une plus petite ville, ça aurait été peut-être plus facile de trouver du boulot et ça aurait été un peu moins onéreux. Mais c'est des bons souvenirs, hein. Tu vois, je trouve du boulot grâce à un pote, donc, qui travaille dans un bar là-bas. Il me fait rentrer avec lui, un Corse, un jeune d'ici, sur qui je tombe par hasard, hein. Je faisais mes courses dans un supermarché là-bas. Puis je vois un couple dans les rayons. Et je dis, mais ils me disent quelque chose, tu vois. Et je m'approche et je vois qu'ils parlent français. Je dis, non, c'est pas possible. Et je l'appelle, je dis, Nico, qu'est-ce que tu fais là? Et il se retourne, il me voit, il me dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Et on était surpris tous les deux de se retrouver à Ciné, tu vois, à l'autre bout du monde, alors qu'on se connaissait, de Paris à la base, mais on est d'origine corse, on va dire. Et du coup, il était avec une fille de Balagne, donc du coup, on est resté en contact, et grâce à lui, j'ai pu bosser, et mettre des sous de côté, et faire un petit trip en Australie, en fait. J'en ai profité pour voyager. Je suis resté à peu près un mois et demi, deux mois à Sydney, le temps de mettre un peu d'argent de côté. Je travaillais dans la restauration. Et après, on est parti, on s'est fait un petit trip sur toute la côte est australienne, avec la barrière de corail, tout ce qu'il y a de super à voir là-bas, quoi.
Alors, du coup, retour casse départ, Calvin.
Alors voilà, retour en Corse, parce que bon, je sais aussi que je vais pas faire ma vie en Australie. Je passe quand même, je pars en novembre en Australie, je rentre en Corse en mai, toujours dans la saisonnalité, hein. Mais ce qui était beau, c'est que en Australie, je passe l'hiver en Australie, c'était l'été. Je rentre d'Australie, c'est le début de l'été ici en Corse. Donc je me suis fait un an et demi d'été, quoi. Donc je rentre ici, je refais des saisons dans la restauration. Je sais pas trop dans quoi je veux m'orienter, et sur les conseils, on va dire, avec l'aide de mon père qui travaillait déjà donc dans le milieu de la mer, qui faisait déjà des sorties en mer avec un catamaran, il me pousse un peu dans cette voie-là. C'est l'occasion, en fait, qui m'a fait rentrer là-dedans. Il y avait un bateau qui se vendait sur Calvi, qui faisait déjà ça, des balades en mer. C'était un pêcheur de Calvi, qui était à la retraite, qui avait pris un petit bateau pour faire des balades en mer. Et des sorties pêche. Du coup, il a fait ça pendant un an, puis il a revendu le bateau, il a vu que c'était pas trop sa voie. Du coup, moi, je rachète ce bateau-là, je passe mes diplômes, et je retourne au lycée maritime à Bastia pour passer des diplômes professionnels.
Capitaine
de sang, voilà, exactement. Je l'ai donc de suite, et ça me permet d'enchaîner sur une saison. Alors, je savais pas trop où j'allais au début, hein.
Alors tout ça, les études sont ponctués par des saisons à la Piazzetta, l'hiver à la Lunanera, je me souviens, parce que
oui, bon, ça c'était pour les soirées avec les copains, hein, la Lunanera, c'était mythique.
On retrouvait souvent derrière le comptoir.
Ouais.
C'était où la Lunanera?
C'était en face du club 24. Ouais, non, pas du club 24, de l'annexe.
C'était les frères Sali qui tenaient ça.
Oui, hein, tu sais qu'à Calvi, il y a des rotations comme ça dans les établissements, il y a des modes.
Ouais.
Et en fait, ça a été une mode d'un hiver,
c'était le lieu tendance.
Hiver été, hein, c'était oui, c'était tendance. Bon, après, on a entraîné dans tous les établissements calvés, hein, les scales, pour ne citer que
Scales de beauté, mais c'est vrai qu'il y a des petits moments de mode, c'est dans les établissements.
Oui.
Ponctué par la saisonnalité. Donc du coup, une fois acté les diplômes, création de la société.
Voilà. Alors création de la société, on va dire en 2011. J'ai fait ma première saison, était 2012.
Enfin, on va la nommer quand même.
2011-2012. Donc ça s'appelle Calvi Évasion. Hein.
Voilà, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook.
Voilà.
Donc depuis 2011. Comment ça se passe au début, parce que là, du coup,
au début c'est compliqué. Je me lance là dedans. Je sais un peu ce que je vais faire, mais j'ai pas encore. Alors au début, je veux faire des sorties pêche, des apéros au coucher de soleil, des sorties à Scandola, des sorties aux Agriates. Je suis un peu éparpillé. Je sais pas ce qui va prendre. Mon père faisait déjà ça. Lui, il faisait des balades à la journée. C'était un peu différent. Il partait avec un cata la journée. Il faisait manger les gens à bord. Et moi, j'étais un peu en complément. Je faisais plutôt des balades plus courtes. Je faisais des balades demi-journée ou même des petites balades de 2 heures. Tu vois, des balades plus courtes ou des sorties pêche. J'essayais de me différencier, on va dire, de ce qu'on trouvait déjà à Calvi. Hein. Il y avait déjà une autre compagnie qui fait ça, mais avec des unités plus importantes. Moi, j'ai essayé de faire un truc un peu, on va dire, à taille réduite, hein, à taille humaine, on va dire. Donc des petits groupes qui dépassent pas 10-12 personnes. Et au début, c'est un peu difficile. La première saison, d'ailleurs, je faisais toujours des extras dans la restauration. Hein. J'ai continué à faire quelques extras parce que je voyais que ça avait du mal à se lancer. Donc jusqu'au mois de juillet, je travaillais dans la restauration. Quand on m'appelait, je faisais des extras toujours à la Piazzetta. Et quand j'avais des gens qui m'appelaient pour faire des sorties, je faisais des sorties au milieu. Voilà, c'était un peu un mix. Juste pendant 2-3 ans, j'ai continué à travailler dans la restauration en même temps que.
Et il y a pas de comment on appelle ça. Il y a pas de découragement à ce moment-là de se dire.
Non, il y a pas de découragement parce que je sais que ça plaît ce que je fais. Les gens, j'ai des bons retours. Je vois que les gens d'une année sur l'autre ils reviennent. Ça m'encourage à continuer et. Je sais que je suis sur un bon créneau et petit à petit, je me fais ma place, on va dire. Ça s'est pas fait d'un coup, mais petit à petit, voilà, je me suis installé, j'ai trouvé mes créneaux, j'ai trouvé mon rythme et voilà.
Hein, ça, alors on va dire que tu es installé en face de la Capi.
Oui, exactement.
Donc juste en face.
Alors j'ai pas commencé. Au début, j'étais au port de pêche. Hein, c'est drôle. Hein, j'étais au port de pêche. J'étais un peu à l'écart de tout, quoi. Et les gens qui passaient devant, j'ai commencé. C'était vraiment artisanal. Hein, je faisais tout. Je passais de la réservation à la sortie, à l'intendance, à l'entretien du bateau. Donc au début, il fallait avoir la tête et les mains partout, quoi, on va dire. Hein.
Alors, il y a plusieurs activités que tu proposes. On va un petit peu élargir là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Il y a les sorties à Scande.
Voilà. Alors donc ça c'est là, on va dire c'est le numéro 1. Hein. Les gens ils connaissent Scande. C'est une réputation internationale. Hein. Donc la sortie numéro 1, on va dire c'est la sortie à Scande. C'est la première. La première petite sortie c'est en demi-journée, hein, une petite sortie qui dure 4 heures. Après, les gens peuvent prolonger donc le plaisir, on va dire, de la découverte en faisant Scandola, un petit arrêt à Girolata et les Calanques de Piana. Ça, c'est la grande balade, on va dire, que j'ai développée après, parce qu'au début, j'avais, en plus, mon père faisait déjà des balades à la journée. Moi, j'avais pas la prétention de partir la journée avec le bateau. Ça me suffisait de partir sur des petites demi-journées. Je faisais plusieurs demi-journées. Je faisais une demi-journée le matin, une demi-journée l'après-midi, plus une petite sortie de 2 heures le soir au coucher du soleil. Ça me suffisait. Et là, depuis 3-4 ans, on a développé des balades un peu plus longues jusqu'aux Calanques de Piana.
Donc, il y a pour les romantiques, le coucher de soleil.
Voilà, le coucher de soleil. Donc, ça, c'est une petite balade qui dure 2 heures, 2 heures et demie, donc au coucher du soleil, avec un petit apéro offert à bord. Ça marche très bien. Ça a mis du temps à prendre, mais maintenant, c'est un produit qui se vend bien. Hein. C'est qualité-prix, les gens sont très contents et c'est une belle petite balade. Hein.
Et il y a possibilité de partie de pêche.
Et partie de pêche aussi. Alors j'essaie de le faire plutôt hors saison parce qu'après juillet-août c'est compliqué. Bon déjà d'aller à la pêche juillet-août, ça mord un peu moins, il y a la chaleur. Et puis on fait des sorties au milieu, je peux pas tout combiner. Mais par contre sur le hors saison, oui, j'amène les gens à la pêche aussi. Ouais, avec plaisir.
Alors le ratio de... Un petit peu la photographie du client, c'est quoi un petit ton client?
Le client type, on va dire 80% de la clientèle, c'est de la clientèle française, familiale, très familiale. Hein, c'est des gens qui viennent, alors surtout juillet-août, hein, c'est des familles hein, qui viennent avec leurs enfants. Alors après, nous, on a des petits bateaux, donc on évite de prendre des enfants trop petits sur les grandes balades surtout hein. Après sur des petites balades il y a aucun problème, donc la petite balade c'est une balade de 2 heures dans la baie de Calvi hein, une découverte de la baie de Calvi, de la Révélate à Grotte des Vaumarins, là on prend des enfants sans problème. Après sur les grandes balades on va prendre des enfants à partir de 6 ans et là c'est surtout de la clientèle familiale, on va dire.
Donc hors saison, il y a les parties de pêche qui sont possibles. Donc du coup, la journée type en saison, elle ressemble à quoi? Alors, on se lève à quelle heure?
Alors, en saison, moi, je me lève vers 7 heures. Faut que je sois prêt au port à 8 heures.
C'est 7 jours sur 7, hein, on rappelle.
7 jours sur 7. Bon, après, on est rythmé par la météo. Hein. On a un métier qui est rythmé par surtout le vent, hein, et surtout en Balagne. Hein. Le vent, hein, il est omniprésent. Hein. On l'a aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. C'est surtout le Libetch ou l'été. Donc, les coups de sud-ouest. Et donc on travaille tant qu'il fait beau. Hein. Après, quand il y a des jours de vent, ça nous permet de souffler aussi. Hein. Des fois, on est même content d'avoir un petit coup de vent de temps en temps pour souffler, hein, on va dire. Hein. Quand on enchaîne. Bon, après, on râle toujours quand il dure trop longtemps. Hein. On est content quand il est là une fois de temps en temps, mais s'il dure trop longtemps, après on commence à râler parce que c'est sûr que ça va empiéter sur notre saison et sur
donc tu as commencé avec un bateau. Aujourd'hui, on est sur 3.
Là,
donc
une belle progression. 3 bateaux. Alors. Le but, c'était pas vraiment d'arriver à 3 bateaux, en vrai. Hein. Le but à la base, bon, c'était de travailler, de gagner ma vie hein, en faisant ça. Hein. Je fais quand même quelque chose qui me plaît. Hein. Donc,
oui, c'est assez rare.
C'est un plaisir.
De pouvoir
réaliser un travail qui me plaît. Donc, j'ai cette chance-là. Et à la base, donc je me lance avec un bateau. Ayant mon père qui faisait ça à côté, on s'envoyait, on va dire, de la clientèle. Lui, pour les journées, moi pour les demi-journées. Et puis, à un moment donné, mon père, il arrête son activité, donc en 2016. Et il était avec un associé. Donc, il se sépare, il vend son catamaran. Et il vient travailler avec moi, en fait. Enfin, c'est un peu plus compliqué, en fait. Je récupère sa société, parce qu'à la base, moi, j'étais pas en société, j'étais en micro.
Donc, ouais.
Pour une facilité, on va dire, administrative, je récupère la société de mon père et on s'associe, on prend un bateau plus récent, on va dire, parce que le premier bateau avec lequel j'ai commencé, c'était un bateau d'occasion qui avait déjà 10 ans. J'ai dû changer les moteurs, il y avait beaucoup d'entretien. Du coup, on repart ensemble sur du neuf en 2016 et on travaille à deux. Et après, le but, c'était pas d'avoir trois bateaux, mais on a vu qu'avec un bateau plus récent, c'était plus facile de travailler, plus confortable. Du coup, on en achète un deuxième en ayant à l'esprit de vendre l'ancien. Et au final, ça se fait pas. Ça se fait pas, on vend pas l'ancien, mais on achète quand même un autre semi-rigide, on va dire. On est parti sur des semi-rigides. Et on garde l'ancien, on s'est dit, bon, il pourra toujours servir en secours. Et au final, je vois qu'avec la demande, ben, j'arrive à exploiter les trois bateaux. Et ça se fait un peu comme ça, quoi, hein, en travaillant avec mon père et en prenant quelqu'un en plus pour nous épauler, on va dire, surtout pendant 4 mois, quoi, juin, juillet, août, septembre.
Donc, du coup, de l'embauche, puisque
ouais,
un nouveau capitaine,
oui,
pour la saison. Et bien sûr, ta tendre et douce.
Exactement. Donc là, voilà, une fois qu'on développe la société, c'est sûr que là, on passe dans un autre monde. Alors déjà, moi, ma femme, Fanny, elle commence à m'aider déjà au début quand j'avais qu'un bateau. Hein. Je vois que c'est dur de tout gérer. À un moment donné, je comprends. Elle veut m'aider. Hein. Elle voit que c'est difficile de tout faire, en fait. Hein. Au début, j'ai un téléphone. J'ai personne, j'ai pas d'accueil sur le port, j'ai juste un panneau, quoi. Les gens, ils passent devant et ils m'appellent en voyant mon panneau, quoi, tu vois. Donc moi, j'arrivais le soir, j'avais des appels, j'avais des messages, parce que quand je suis à Scandola, le téléphone, il capte pas. Je rentrais, j'arrivais, je finissais mes sorties, donc j'arrivais vers 18h, on va dire, en général, sauf quand je faisais des apéros couchés de soleil, mais en général, je finissais à 18h au début.
Vous avez 14,
et là, du coup, j'avais des messages, du coup, je rappelais tout le monde, et du jour au lendemain, du jour au lendemain, je savais pas si j'allais pouvoir compléter mon bateau, tu vois. Et souvent, le matin, j'avais du mal à remplir parce que, du coup, je rappelais les gens, et du coup, soit ils étaient partis ailleurs, soit ils étaient là que pour la journée, soit ils avaient déjà fait la balade avec quelqu'un d'autre, et du coup, je loupais beaucoup de clients comme ça, et ben, c'était malheureux parce que je pouvais pas répondre, donc, et du coup, je me suis aperçu que j'avais besoin de quelqu'un déjà dans un premier temps pour gérer tout ce qui est réservation.
Et ça, ensuite, c'est l'administratif.
Voilà, ensuite l'administratif, et puis après, voilà, hein, quand on se développe, il y a beaucoup plus de paperasse et de choses à gérer, et j'avais vraiment besoin de quelqu'un, et c'est sûr que là, Fanny m'a très bien épaulé là-dessus, et heureusement qu'elle était là d'ailleurs, elle m'a poussé aussi parce que, quand on a quelqu'un aussi à qui on peut faire confiance, ça aide vachement. Ça m'a donné une tranquillité aussi au niveau du travail, parce que moi je savais que je pouvais m'occuper que des bateaux et des sorties, et que l'administratif il était bien géré parce qu'elle était impliquée et voilà, et ça s'est passé bien comme ça. Et elle m'a poussé aussi à développer certaines choses comme la réservation en ligne par exemple. Au début j'étais un peu réticent, c'était un peu compliqué. Enfin, j'avais l'idée en tête et ça s'est mis en place. Et elle a vachement développé ça et elle m'a vachement aidé là-dessus. Et j'en remercie d'ailleurs de m'avoir poussé à faire ça. Hein.
Mars 2020, on va parler.
Alors mars 2020.
Pandémie.
Pandémie, ouais.
Pandémie en plein dans la figure. Donc perte de. Ah, pour toi ça doit représenter, comme tout le monde, je suppose, 2 mois de. Alors, mois de perte.
Exactement.
Alors, au début, comment moi, on gère tout ça?
Alors, au début, moi, je te dis franchement, j'étais pas trop inquiet. Les 15 premiers jours du premier confinement, je me suis dit, bon, ça va passer vite et tout ça. Puis au bout de 15 jours, quand j'ai vu que ça durait, je commençais à me poser des questions. Et la saison, est-ce qu'on va pouvoir la faire? Est-ce qu'on va pas pouvoir la faire? Et si ça durait? Et ça empirait. Bon, après, ce que les informations, les chaînes d'information bouclent aussi, c'était vachement anxiogène. Et c'est ça qui mettait encore plus le stress, quand on se disait on va jamais s'en sortir, ça. Donc du coup, ça a été un gros moment de stress. On voyait que plus ça allait et plus on loupait la saison, quoi. Et au final, ça s'est débloqué vraiment, on va dire, ça s'est débloqué en juillet. On est revenu entre parenthèses à la normale en juillet-août, quoi. Juillet-août, on a réussi à sauver les meubles. On a réussi à sauver les meubles. Il nous manque quand même une petite partie de la saison qui est l'avant-saison, et le mois de juin l'année dernière, on l'a complètement loupé, quoi, on va dire. Voilà.
Et du coup, comment ça se passe depuis, puisqu'on on en est au troisième confinement, enfin là, c'est soi-disant la fin. Donc l'hiver, à la limite, t'es pas trop impacté.
Non, l'hiver,
donc,
je suis pas impacté. J'ai cette chance-là de d'avoir un travail saisonnier, on va dire.
C'est le troisième. Alors, là, tu peux commencer à travailler.
Celui-là, il m'inquiète un peu moins, parce que on va dire entre parenthèses qu'on a vécu le pire l'année dernière. Je pense que ça pourra pas être pire cette année, quoi. Ça sera soit pareil, soit mieux. Je pense pas que ça pourra être pire. Enfin, j'espère en tout cas. Hein,
optimisme.
J'essaye d'être optimiste pour une fois, on va dire.
Au niveau des aides, tu as eu besoin, tu as eu accès.
J'ai eu accès aux aides, surtout. Heureusement, on a eu le prêt donc avec l'aide de l'État là. Donc moi, de suite, je me suis lancé là-dessus parce que j'ai voulu anticiper avant de. Je pensais que j'allais complètement passer à travers la saison dernière et je me suis lancé là-dessus de suite. J'ai fait un prêt garanti par l'État pour on va dire pour parce que je sais très bien que si je loupe la saison, moi l'hiver j'ai rien quoi.
Pour faire
une trésorerie pour. Mais les bateaux, ça coûte cher aussi. Hein. Il y a l'entretien, il y a tout ça. En hiver, il faut les mettre au gardiennage. Et je me disais, si j'ai pas la trésorerie, je vais pas passer l'hiver. Donc là, par contre, j'étais vachement inquiet. Et du coup, je me suis lancé de suite sur un prêt garanti par l'État, quoi. Et ce qui m'a permis d'avoir une trésorerie. Voilà.
Donc, on va faire une petite parenthèse, football. L'association, les copains d'abord. Donc, qui a appelé historiquement hein, les vétérans.
Oui, oui.
Le lundi et le jeudi soir, donc toi tu es un membre actif depuis presque 15 ans.
Ouais, presque. Alors,
mon grand drame 25. Moi je suis vétéran depuis mon adolescence,
c'est
donc
ça.
Je suis pas sûr
on a toujours été des vétérans.
ça reflète mon niveau finalement. là-dessus, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Puisque du coup, il y a eu un petit changement de bureau entre guillemets,
ouais,
mais
il y a
c'est
de bureau, mais ça se fait dans
tout bouge, mais rien ne change finalement.
Oui, rien ne change. Enfin, on va dire que
la pandémie a mis un petit peu.
La pandémie nous a mis un frein. Moi, ça m'a vachement manqué parce que du coup, on pouvait plus jouer au ballon. C'est important. Et puis, même au niveau social, on va dire, ça nous permet d'avoir un lien avec des gens qu'on voit pas forcément en dehors du foot. Hein. C'est bizarre, mais on se voit au foot et puis des fois, on se croise, mais on fait pas forcément beaucoup de choses ensemble, mais c'était vraiment un lien social, intergénérationnel aussi, parce que il peut y avoir des jeunes qui ont 20 ans autant que des gens de notre âge ou même plus âgés, hein, d'une quarantaine d'années jusqu'à une cinquantaine d'années, et ça permet d'avoir une cohésion, un lien social avec des personnes qu'on voit pas forcément dans la vie de tous les jours. C'est une association qui est ouverte à tout le monde. Hein, donc c'est surtout pour le plaisir, c'est du loisir, du foot loisir, et ça permet de faire du sport aussi. Hein,
donc là, il y a un petit peu de manque, je suppose.
Il y a un gros manque. Ça se ressent aussi physiquement hein, de faire moins de sport. Hein. Moi, ça me permettait d'aller faire du sport, mais avec du plaisir, avec des copains, quoi.
Ouais.
Donc,
Ça dépend du résultat,
oui, des fois.
Tu peux prendre la mouche.
Des fois, on peut bisquer un peu, mais bon, ça, c'est mon
les
côté.
Petits ponts, t'aimes pas.
Ouais, ça, j'aime pas, mais ça, surtout quand tu les fais toi, quoi. Avec ta magagne.
Alors, on va aborder les questions qui fâchent.
Allez.
Attention.
Petite musique d'ambiance.
Alors, dépendant un petit peu de la saison, des pandémies, est-ce que ça t'a amené un besoin de te renouveler? Est-ce que ça t'a amené à des réflexions finalement?
C'est clair que ça nous remet un peu en question sur la saisonnalité. Hein. On se dit que ça serait bien peut-être de partir sur quelque chose qui pourrait aussi fonctionner l'hiver ou faire autre chose l'hiver en fait.
Oui, parce que ça fait 30 ans qu'à Calvi, en Corse, et j'ai des théoriciens. Alors moi ça. Comment on pourrait faire pour faire venir du monde? Non. Et il y a toujours un débile qui dit faudrait allonger la saison.
Non, moi,
on n'y avait pas pensé.
C'est pas dans ce sens-là, moi, c'est plutôt dans le sens d'avoir une autre activité carrément l'hiver, quoi. Où...
Carrément, c'est-à-dire.
Mais dans ma tête,
sur la prolongation de la saison, toi,
c'est compliqué.
C'est
bon, après, moi, je pourrais prolonger, mais bon, je pourrais travailler avec la clientèle locale aussi, mais je veux dire les gens, bon. C'est plus compliqué. Moi, dans ma tête, on va dire, dans un coin de ma tête, je garde toujours cette idée de la pêche, on va dire, parce que mon père est pêcheur, donc il continue à pêcher. D'ailleurs, il m'a dès ces dernières années, il m'a délégué vraiment la balade en mer. Il m'a laissé un peu tout seul pour gérer la société. Et lui, il s'est vraiment concentré sur son activité pêche qu'il a repris, on va dire, ces dernières années. Et moi, j'ai toujours dans un coin de ma tête, peut-être, allier les deux, quoi, faire un peu les balades en mer pendant l'été, continuer à aller un peu à la pêche, mais vraiment pour avoir un complément, quoi, tu vois, pendant l'hiver. J'ai toujours ça dans un coin de ma tête, mais bon.
Deuxième question qui fâche, le parc. Alors, sujet à controverse, la perte du label européen, est-ce qu'il y a trop de bateaux à Girolate?
Non, ça a été beaucoup de bruit pour pas grand-chose, on va dire. Hein. Nous, en tant que batelier, on a une association. Hein, c'est très, on est encadré, on est en discussion. Hein, depuis maintenant, ça va faire au moins 3-4 ans. Alors au début, c'était un peu tendu parce qu'il y avait quelques tensions. Il y avait un manque de discussion, je pense, avec le parc, tout ce qui se faisait. Tout ce qui était au niveau de la réserve, mais là les discussions sont ouvertes depuis qu'on a créé l'association. On fait partie de la table des discussions. La perte du label européen, il est pas forcément dû à la fréquentation. Il est dû à plusieurs choses aussi, hein. Il est dû aussi au manque de développement de la réserve au niveau des gestionnaires, hein. Ils auraient dû agrandir la réserve. Ils auraient dû faire modifier la réglementation qui date quand même des années 70, mmh. Hein, il faut pas l'oublier. Hein, donc et depuis elle a pas changé, donc elle est plus adaptée à nos jours.
Il y a peut-être un cahier des charges qui est lourd à respecter aussi. Alors des charges, hein, peut-être. Hein.
Alors voilà, pour ce label, il y a un cahier des charges, mais alors après on va
pas adapté au niveau local sans doute.
Non, ouais, peut-être aussi. Et puis moi je vais te dire la vérité. Avant la perte du label, je savais même pas qu'on avait ce label. Hein, le label européen des espaces protégés, c'est un petit label. Enfin, c'est pas un truc. La réserve, faut savoir qu'elle est quand même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, le label UNESCO. Donc là, on parle de quelque chose. On parle d'un label mondial, mondialement reconnu. Le label européen des espaces protégés, c'est un label, mais c'est un label parmi tant d'autres. Elle fait partie aussi d'une zone Natura 2000, la réserve de Scandola. D'ailleurs, la zone Natura 2000, elle part de Cargès jusqu'à Calvi. Donc, toutes ces choses-là, ça, c'est des vrais labels de protection, on va dire, hein, de l'environnement, au niveau environnemental. Et nous, ce qu'on fait, quand on fait des balades, moi, j'ai pas l'impression d'avoir bien sûr qu'on a un impact, hein, mais je fais pas ça pour avoir pour pas qu'il y ait d'impact sur cette réserve, il faudrait pas qu'on y aille, hein, tout simplement, hein, il faudrait qu'elle soit fermée et que personne n'y accède. Maintenant, je pense qu'en respectant les règles, d'autant plus que nous, on est plutôt des
guides. Vous les respectez plus, sans doute, que des privés qui vont.
Des privés ou que certaines personnes qui louent un bateau et qui partent comme ça et qui savent pas où ils atterrissent, en fait, hein. Moi, je vois des comportements l'été. Moi-même, et je vais les signaler aux gens. Je suis pas la police, mais je vais signaler aux gens qu'ils peuvent pas faire ça en restant à ma place. Hein. Je suis pas voilà. Et après, ou sinon, je signale. On est maintenant en relation avec le parc. Dernière réunion, ça s'est très bien passé. Le parc d'ailleurs a pris des nouveaux agents pour avoir une meilleure gestion de la réserve. Ils ont créé des postes sur Porto. Avant, ils étaient que sur Galère. Donc maintenant, il y a des postes à Porto. Donc ils ont employé des jeunes. Ça c'est très bien. Donc et nous, on est dans la discussion. On fait partie de toutes ces discussions. On a même un numéro où on s'est échangé des numéros sur lesquels on peut contacter le parc en cas de problème ou si on avait besoin de signaler quelque chose de suspect dans la réserve.
Hein, de grave, hein,
ou de grave. Donc non, moi je pense que c'est bien. On travaille main dans la main et c'est ce qu'il faut. Ça s'est vachement amélioré ces dernières années et on va dans le bon sens.
Dernière question qui fâche. Allez. Tu travailles dans le tourisme.
Ouais.
Le client relou. On a tous connu ça. Alors toi, c'est compliqué parce que tu peux pas le sortir de l'établissement.
Le client relou. Alors,
j'ai fait une visite avec toi. Il y a quand même un souci d'expliquer un petit peu historiquement, d'expliquer peu les choses.
On est des guides, hein. Moi, je fais pas ça bêtement. Je transporte niveau, pas les gens comme ça.
Il y a une transmission, il y a un partage.
Exactement.
Au niveau biologique, au niveau naturel, au niveau
historique.
Donc
aussi, hein.
Historique, ouais. Est-ce que à un moment donné, parce que toi c'est difficile, une fois que tu es parti, tu peux pas ramener à quai.
Oui, obligé
de te coltiner 4 heures.
Bon, le client relou, c'est le client qui va te poser un peu des questions évidentes, on va dire entre parenthèses, mais c'est rare, hein. Franchement, les gens sont plutôt intéressés. Non, il y a pas vraiment les gens sont vraiment, enfin, on vend du plaisir en fait, hein. Les gens, ils font ça, c'est une balade en mer, il y a c'est, on peut pas ne pas être content, à moins qu'il y ait vraiment, qu'on se prenne un orage sur la tête ou une tempête qu'on n'avait pas prévue. Ça, ça peut arriver. Alors là, oui, les clients, alors on va tout faire en sorte.
Le mal de mer, peut-être.
Mal de mer, voilà. Mais on peut pas dire que c'est un client relou parce que non. C'est pas leur faute, quoi. Donc, pas vraiment, hein. Après, le client relou, ça va être surtout les clients qui se plaignent de pas faire la sortie parce qu'il y a mauvais temps. ça va être le client relou. Et il va nous faire scandale parce qu'on n'a pas pu l'amener en balade. Ça, alors là, oui, par contre, c'est le client relou.
Ce serait à tester, d'ailleurs, de l'emmener véritablement.
Voilà.
Faire un petit tour.
Mais des fois, c'est ce que je fais. Je sors du port, je les amène jusqu'à la révélate pour leur montrer que parce qu'on s'imagine pas quand il y a des coups de libitch ici. Dans la baie de Calvi, c'est vachement abrité. On a de la chance d'avoir la révélate qui nous sert de barrière, on va dire, de barrière naturelle par rapport au vent et au libitch surtout, hein. Et du coup, dès que tu passes cette pointe, dès que tu passes le phare, tu te fais démonter, quoi. Tu te prends des creux de 2 mètres. Et là, les gens, ils s'en rendent compte. Et je dis, oh, mesdames, messieurs, on peut pas continuer. Sinon, vous allez, ah oui, on rentre au port. Et là, ils sont contents, quoi. Ils me donnent presque un pourboire pour l'avoir ramené au port, tu vois. Enfin, ça arrive même de temps en temps. Donc, tu vois, donc, c'est, voilà, le client relou, c'est le client qui comprend pas qu'on peut pas sortir et qui veut absolument aller en mer et...
On va aborder la fin. Les questions flash.
Allez.
Si t'étais une qualité?
Ben, ma qualité, on va dire, ça serait l'honnêteté.
Un défaut?
Alors, mon plus gros défaut, c'est d'être perfectionniste.
Oh, peut être une qualité aussi.
Ça peut être une qualité, mais c'est des fois c'est pas bon, surtout pour ceux qui t'entourent et ceux qui travaillent avec toi, je pense. C'est...
Si tu étais un animal.
Un animal, je vais dire un lion parce que c'est mon signe astrologique.
Est-ce que tu as un héros de fiction ou de la vie réelle qui te suit depuis longtemps?
Pas vraiment un héros. Quand on était petit, c'est vraiment les super-héros, quoi. On va dire style Batman, Superman, oui, ça fait rêver, quoi.
Ce que tu détestes le plus chez l'homme?
Le plus chez l'homme, c'est la malhonnêteté, on va dire.
La chose dont tu es le plus fier?
Le plus fier, ma famille, la famille que j'ai fondée avec ma femme. Hein.
Une petite phobie?
Petite phobie, on va dire les araignées, allez.
La dernière fois que tu as pleuré, ah, ça je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps, me plaît.
La dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand ma fille est née. Hein.
Bon, le vin. si tu pouvais revenir en arrière et dire quelque chose à l'enfant qui était à 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais d'être un peu moins timide, d'avoir plus confiance en lui.
Mika, je te remercie. Je rappelle que toi d'ores et déjà... 6 personnes, tu peux commencer.
Oui,
je peux déjà commencer,
on va dire, à travailler. On sera vraiment prêt à la mi-mai. On sera vraiment prêt à travailler.
Je vous conseille d'aller, on va essayer de poster le compte Insta, le compte Facebook.
Et j'ai un site.
Un petit site, Calvi Évasion. Et profitez-en, qu'il n'y a pas trop de monde et tout, une petite partie de pêche.
Oui, bien sûr, là, il faut profiter du début de saison.
C'est maintenant.
Hein.
C'est maintenant. Ils arrivent.
Parce qu'après, je pense que ça va être violent.
Ils arrivent. Voilà.
Surtout fin juin.
Ouais, fin juin début. C'est...
Moi, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, Anto.
Oui.
Alors, je ne vais pas dénigrer Mika, mais je reçois Stéphanie. Stéphanie Tchekal. Et je ne te cache pas.
Oui.
Que mon cœur palpite.
Ah, mais tu as tout à fait raison. Hein.
Voilà. Donc, ce sera une belle émission. De toute façon, elle est là. Elle ne pourra être que belle. Donc, chers auditeurs, je vous dis à lundi prochain, 10h30, en direct, comme d'habitude.
Merci. Retrouvez cette émission en podcast quelques minutes après sa diffusion en direct. www.radiocali.fr, le site, mais aussi l'application sur les iPhones, sur les Android. Téléchargez-la. Vous pourrez écouter l'émission et la radio en live ou en podcast si vous le désirez.
Radio Calvi Citadelle.